affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Alors que s'installe enfin l'été sur la France, que diriez-vous d'une escapade ? Une escapade dans un décor pastoral ou bucolique ? Pourquoi, par exemple, ne pas nous rendre à la campagne, dans un parc ? Nous pourrions aussi convier quelques amis musiciens ou comédiens, sans oublier les élégantes, qui s'inscrivent toujours dans leur sillage. Ainsi, à l'ombre des frondaisons, nous laisserions le soir tomber dans une atmosphère toscane ou vénitienne, à moins qu'elle ne soit flamande. Mais nous nous adonnerions surtout à l'art bien français de la conversation. Ce programme, c'est celui que nous vous proposons avec cette nouvelle émission. Ce n'est pas tout à fait le nôtre. Pour être franc, nous l'avons emprunté aux peintres français du XVIIIe siècle. Ce programme, c'est celui des fêtes galantes qui font l'objet d'une magnifique exposition au musée Jacquemart-André jusqu'au 21 juillet prochain. Pour l'accomplir, nous avons la chance et la joie de recevoir dans nos studios Nicolas Sainte-Fargarneau, qui est à la fois conservateur du musée Jacquemart-André, spécialiste de la peinture française et co-commissaire de cette exposition. Pour commencer, monsieur, je vous propose de nous définir cet objet pictural appelé les fêtes galantes.
Vous avez raison, parce que c'est un thème qui n'est pas, comment dire, fréquent dans la peinture française, ou en tout cas, on pense plutôt à évoquer la peinture d'histoire, par exemple, certains thèmes, comment dire, mythologiques, la poésie, pourquoi pas, que la fête galante. Je crois qu'il est nécessaire, au départ, de bien se concentrer sur une définition qui puisse accompagner notre promenade. Alors, la fête galante, il faut rappeler qu'elle est inventée, non pas en France en réalité, mais à Venise au XVIe siècle. Et Venise est probablement le lieu le plus libre de l'Occident à cette époque. Vous savez que c'est un port vers l'Orient, c'est un lieu d'échange. Et par conséquent, va pouvoir se développer une pensée et surtout une expression picturale, notamment, plus libre qu'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître ces tableaux nous présentant des Vénus allongées, des concerts champêtres. Je pense au tableau de Giorgione et Titien, vous savez, célèbre tableau du Louvre. Tous ces thèmes qui ont pour unique objet l'attrait du corps féminin, autrement dit, des allusions, des arrière-pensées qui sont manifestement érotiques. Et là on est très en deçà de ce à quoi on pourrait s'attendre à cette époque. La peinture la plus fréquente, la plus usuelle, c'est la peinture religieuse. Et puis vous avez aussi une peinture, qui est d'histoire, d'allusion, de référence politique. Vous avez quelquefois un peu une peinture de genre, mais cette peinture qui est une peinture profane, elle n'existe pas avant cette apparition. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois que le sujet a été abordé franchement, il va parcourir les siècles de façon détournée et on va le voir revenir sur le devant de la scène à Paris au début du XVIIIe siècle. Et celui qui est le grand artisan de ce retour en force, c'est Antoine Watteau. Antoine Watteau va être le peintre de non pas la pastorale, comme les Italiens le disaient au XVIe siècle, mais de la fête galante. La fête galante, c'est une espèce de création dans laquelle on voit des parcs, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, des lieux naturels. Dans ces lieux naturels, vous avez des personnages qui se rencontrent. Alors, avec Watteau, on commence à se poser des questions, puisque vous avez à la fois des personnages habillés en costume de ville, donc c'est-à-dire des gens comme vous et moi, et puis vous avez des comédiens. Et donc, vous voyez très bien que, de ce fait, Watteau nous tire de la réalité à l'imaginaire, à la poésie, et que ça lui permet probablement de justifier ses sujets un peu osés en disant « mais c'est pas tout à fait le vrai et notre quotidien ». En tout cas, c'est un bel argument pour, en effet, introduire la galanterie comme thème majeur de ses œuvres qu'il va développer tout au long de sa carrière.
Alors, vous avez évoqué une des racines vénitiennes. Au fil de l'exposition, on évoque aussi des pastorales dites flamandes.
Oui, bien sûr. Il y a un grand retournement qui se passe au début du XVIIIe siècle dans la peinture française. J'évoque le Palais Royal, qui est donc la résidence de la branche cadette des Bourbons, depuis le XVIIe siècle, vous avez ici une galerie de peinture. Et dans cette galerie de peinture, vous avez une quantité incroyable de tableaux flamands. Alors, si vous me posez la question, mais qui voit-on en particulier ? Eh bien, ce qu'on appelait à l'époque des scènes de genre, des paysanneries, des noces au village, des marchés. On voit aussi des étalages avec des victuailles qui débordent, avec ce réalisme flamand qu'on imagine bien. On voit des bouquets de fleurs. Voilà la peinture.
Une sensualité moins cérébrale.
Exactement. Et des sujets qui ne sont pas tirés par la littérature ou des allusions de caractère mythologique ou autre. Donc, évidemment, cette peinture flamande, si vous voulez, c'est très étonnant. Alors qu'on la dépréciait au siècle d'avant, elle occupe le devant de la scène au détriment de la peinture italienne. Et bien entendu, elle va avoir de l'influence sur les artistes français. Et Watteau le premier... On le voit dans l'exposition, vous avez un magnifique tableau qui a pour titre « L'accordé du village ». Qu'est-ce que c'est que l'accordé ? Eh bien, c'est cette rencontre entre un jeune homme et une jeune femme, c'est la noce, et on va avoir ensuite de la noce le bal qui est lancé par ces deux jeunes gens auxquels nous assistons, et nous voyons toute cette scène se dérouler sous nos yeux.
Avec toute la truculence qui peut exister dans les pays flamands.
Mais, si vous voulez, ce qui est passionnant, c'est que si on tire un rideau sur la scène proposée par Watteau et qu'on met devant un tableau proposé par Teniers sur le même sujet, on va avoir quasiment, bord à bord, exactement la même scène. Et ça, c'est très surprenant. Ça montre, de ce point de vue-là, l'influence de la peinture flamande sur la peinture française. Et on sait bien que Watteau a été très attentif à cette influence. Un autre exemple que je pourrais vous donner, évidemment, Watteau va fréquenter le palais du Luxembourg. Et à l'époque, dans le palais du Luxembourg, vous avez deux ailes, et l'une des deux ailes est décorée par la célèbre suite de la vie de Marie de Médicis, réalisée par Pierre-Paul Rubens. Et Watteau, comme tous les peintres de son temps, ne cessera de regarder cette peinture en se disant « mais cette qualité de transparence, cette façon de faire jouer les couleurs, l'utilisation de la lumière telle que Rubens la traite, et surtout cette façon qu'il a de représenter les personnages habillés dans des habits de soie, à la soie renvoie la lumière et elle a de façon quasi physique cet attrait, cette brillance qu'on imagine. Ça, ce sont les leçons qu'on retient. Et vous avez sur place à Paris, vous avez cette grande galerie qui, elle encore, est une démonstration de la qualité de la peinture flamande. Bien entendu, des gens comme Watteau y font référence au quotidien.
Ce que vous voulez dire, c'est que Watteau s'inspire ou poursuit cette tradition picturale de la peinture flamande, mais grâce à ses études et à ses recherches et à ses goûts parisiens, non pas par ses origines flamandes de Valenciennes.
Alors, vous avez raison d'insister sur ce point, parce que, évidemment, la première idée qui nous traverse l'esprit, c'est de dire, c'est évident, Watteau est influencé par la peinture flamande, parce que à l'époque, Valenciennes est à quasiment 5 km de la frontière entre la France et les Pays-Bas. Donc, il a vu ces tableaux et évidemment, il les connaît par cœur.
Et son nom lui-même est bien flamand.
Oui,
il aurait pu être
une sorte
de datavisme qui rejaillirait.
C'est vrai. Et alors, quand on gratte un peu, comment dire, ce vernis-là, on découvre une chose assez stupéfiante, c'est que son apprentissage local est très rapide et qu'en fait, il file très vite à Paris. Et la peinture flamande, il la découvre, il la réalise grâce aux grandes collections parisiennes.
Non pas dans le terroir, mais grâce au caractère cosmopolite de Paris à l'époque.
Voilà. Donc, si vous voulez, on a évoqué tout à l'heure la peinture vénitienne, et il y a à Paris des éléments de peinture vénitienne qui permettent justement de récupérer les thèmes traités par la peinture vénitienne. Et vous avez aussi le style flamand présent dans ces mêmes collections qui permet à Watteau de faire sa petite cuisine qui aboutit à la peinture que nous découvrons sur ces tableaux.
Les fêtes galantes sont donc le fruit, seraient donc le fruit, si on les inscrit dans l'histoire de l'art, d'une forme de rencontre ou de fusion.
Fusion, absolument.
Entre ces deux traditions.
Entre différentes traditions. Et puis, alors, n'oublions pas un troisième élément capital pour comprendre le développement de cette peinture, de ces fêtes galantes. Il y a ce que je pourrais appeler d'esprit parisien. Et là, on a devant nous un phénomène très curieux. Il faut peut-être que je revienne un petit peu en amont pour expliquer les choses. Tout l'effort du XVIIe siècle a été tourné vers une espèce de bras de fer avec la peinture italienne. Alors, je vous rappelle quand même qu'au siècle précédent, on va encore remonter d'une étape. François Ier invite des peintres et des sculpteurs italiens à Fontainebleau. Donc, comment l'art français se développe-t-il ? Grâce à l'apport direct des artistes italiens venus sur notre sol. Et au siècle suivant, au XVIIe siècle, des consciences bien trempées se disent « Mais enfin, où est notre génie propre ?» Et donc, ils vont tout faire pour que l'expression française arrive à même niveau. C'est tout le travail de Richelieu, et vous pensez bien qu'ici, dans cette grande maison, on est sensible à ces phénomènes de Richelieu, et plus tard de ses successeurs, jusqu'à Jean-Baptiste Colbert, qui vont faire en sorte que cette école française de peinture, elle dispose des moyens justement pour s'exprimer à sa façon. Mais ce faisant, on va créer un art officiel qui va être l'art de Versailles. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ce que vous voyez à la voûte de la Galerie des Glaces de Versailles, c'est-à-dire un art qui est fondé sur une expression baroque avec des thèmes dominants qui sont eux-mêmes inspirés par la mythologie. Donc, vous avez une forme d'expression ici qui trouve son interprète avec le premier peintre du roi, qui est Charles Lebrun. Donc cet art-là, il va se développer à la fin du XVIIe siècle. Il va continuer d'ailleurs au XVIIIe siècle. Mais le règne de Louis XIV, vous le savez, est un règne qui n'en finit pas de finir. Et donc, ce règne-là... on voudrait bien tirer un trait et passer à autre chose. Et c'est à Paris que l'opinion est la plus sensible à ce phénomène. C'est à Paris que vous voyez apparaître, dans le cadre de salons, alors je m'entends, les salons, ce sont ces intérieurs tenus par des femmes de grands bourgeois, de grands financiers, qui aspirent justement à briller par l'intermédiaire de la culture. C'est là que se développe l'art de la conversation et c'est là qu'on met en avant des idées nouvelles. Alors évidemment, Paris frondeur, ne l'oublions pas, Paris se révolte un petit peu contre l'art de la cour, contre l'art de Versailles. Et on dit, bon, c'est très bien tout ça, mais bon, on pourrait trouver des formes d'expression nouvelles ou différentes. Et c'est très exactement ce milieu-là qui va soutenir ce que Watteau est en train de mettre en place. C'est ce milieu-là qui va l'accompagner. C'est dans ce milieu-là qu'on va trouver des amateurs qui vont dire « Bon, mais très bien, cher ami, j'achète un tableau, j'achète une fête galante, ça me plaît beaucoup. » Et donc, c'est grâce à ce ton retrouvé d'une liberté qui n'était pas acquise à Versailles que la peinture française va pouvoir s'orienter dans cette voie qui est une voie évidemment nouvelle.
Oui, c'est-à-dire que vous faites bien de le souligner. À l'époque, Paris n'est pas le centre, il est à la marge, mais il est peut-être déjà le centre dans lequel bouillonnent les nouvelles élites. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme cela ?
On a bien entendu, à ce moment très particulier, on a une espèce de, comment dire...
point de bascule.
Oui, point de bascule entre, en effet, le centre officiel du pays, qui est toujours Versailles, bien entendu, et puis... une capitale, vous savez, c'est une vieille histoire, hein, l'opposition, la rivalité entre Paris et Versailles. Donc là, c'est Paris qui reprend la main et qui reprend donc la première place.
Dans tout ce déroulé, nous avons vu que les fêtes galantes s'inscrivent indubitablement dans un déroulé presque spontané de l'histoire de l'art, avec des thèmes qui ressurgissent, dont certains s'emparent pour lui donner de nouvelles inflexions. On découvre que c'est aussi un miroir de la société, ou à tout le moins des tensions qui l'agitent. Ceux qui le mettaient en œuvre, en avaient-ils conscience ? Ou était-ce
alors, écoutez,
juste des artistes avisés ?
Est-ce que le badinage est quelque chose de si étranger à la nature humaine ?
Et française.
Et française, voilà, je crois que vous avez déjà la réponse. Seulement, il faut bien, revenons un instant encore au XVIIe siècle. Jusqu'alors, ce lien qui peut exister, cette relation qui peut se faire et apparaître entre un homme et une femme, c'est un lien qui est totalement cadré, ce qui est, installé dans un parcours. Rappelez-vous comment les précieuses du XVIIe siècle vont imaginer le parcours amoureux à l'époque. C'est un... J'en prends pour exemple vraiment ce que les contemporains disaient, c'est un parcours d'obstacles. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien de facile, il n'y a rien d'amusant. Et au XVIIIe siècle, à l'inverse, vous avez des personnages qui vont s'affranchir de ces obstacles. Et à chaque pas en avant est une conquête par rapport à la période précédente. Donc, il faut pas imaginer que les choses sont si faciles que ça, et ça explique que l'évolution soit également si lente. C'est peut-être la raison pour laquelle, chez Watteau, et arrêtons-nous un instant justement sur les fêtes galantes telles qu'elles apparaissent chez Watteau, on ne voit pas, puisqu'on a parlé galanterie, on ne voit pas de gestes déplacés, on ne voit pas de regards concupiscents, on ne voit pas d'attitude qui pourrait prêter à discussion. Tout est suggéré. Parce que on voit bien que il n'est pas encore possible, certainement, de parler aussi franchement qu'on le souhaiterait. Vous savez, la conversation, c'est un mot qui passe, et puis le suivant va le faire oublier. Alors que le tableau, si vous l'accrochez sur un mur de votre salon, il est là. Il est présent et il demeure. Donc ce qu'il montre, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Donc l'artiste qui va l'imaginer est aussi prudent dans sa façon pour s'assurer que, oui, il a une suggestion, mais on ne va pas aller plus loin pour l'instant.
Alors comment suggère-t-il ? Comment tout cela se traduit-il de façon picturale, justement ? Dans la composition, dans les thèmes ?
Eh bien, prenons un tableau délicieux qui est ce tableau du musée Thyssen de Madrid qui nous a été prêté. Vous voyez un petit groupe de personnages, cinq personnages assis sur une banquette dans un parc. Et vous avez, en l'occurrence, vous avez trois hommes et deux femmes. Donc, le personnage central, c'est un Gilles. Gilles, qui est évidemment un nom qui évoque certainement pour nos auditeurs le tableau du Louvre, le célèbre tableau de Watteau, rappelons-le, c'est un comédien. Il est habillé, il porte un habit de comédien. Et à ses côtés, il y a un autre comédien qui porte lui aussi un habit facilement reconnaissable. Donc, au fond, on peut se dire, mais que font-ils là ? parce que on pourrait s'attendre à ce qu'ils parlent entre eux, mais c'est pas si évident que cela. Et pour bien comprendre la raison de ce rassemblement entre ces trois hommes et ces deux femmes, il faut aller derrière le banc. Vous voyez le parc avec ses buissons, ses arbres, et tout d'un coup, vous découvrez dans la pénombre une masse qui est éclairée par un rayon de lumière. La masse se découpe avec, donc, sur la bordure, le rayon de soleil qui lui donne sa forme. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'on a affaire à une statue. Mais ce n'est pas une statue, comment dire, anodine, puisqu'en réalité, alors on se rapproche pour regarder d'un peu plus près, et tout d'un coup on se dit, mais c'est un faune. Et là, ça nous renvoie à tout à fait autre chose. Bon, des thèmes qui ont été traités à nouveau par le Titien, au milieu du XVIe siècle, qui étaient des bacchanales. Or, les bacchanales, rien n'est plus clair sur ce qui est en train de se passer. Hein. Ce sont des jeux érotiques manifestes. Or là, c'est très amusant parce que vous avez le devant de la scène, les cinq personnages qui sont là, qui nous regardent, et on se dit, mais tout ça est très sage. Et la suggestion, il faut aller la chercher derrière en se disant, oui, mais dans l'instant qui va suivre, qui nous dit que les choses ne vont pas tout d'un coup, comment dire, évoluer ? Oh, vous dites déraper, oui, enfin bon, chacun jugera.
Finalement, la charge subversive n'est-elle pas plus forte avec ces personnages habillés, d'ailleurs, finalement, que s'ils étaient... présenté tel quel, de façon mythologique. Lorsqu'on les présente habillés à la mode antique, on a un instantané qui est celui d'une époque révolue. Lorsqu'on introduit l'idée d'une bacchanale, mais qui se déroulerait dans l'instant contemporain de l'époque, avec les vêtements de l'époque, est-ce que finalement ce n'est pas une charge encore plus subversive ?
Oui, on peut le dire, en effet, parce que je n'ai peut-être pas assez insisté sur l'idée que chez Watteau, ce qui est neuf aussi, c'est que, bon, au fond, les comédiens appartiennent, je le disais, au monde de l'imaginaire. Vous avez aussi des musiciens. Ce sont des interprètes d'expressions qui n'appartiennent pas à la réalité. Alors que les personnages que nous voyons à leur côté sont des personnages, vous aviez raison de le souligner, qui sont habillés à la mode du temps, à la mode de Paris. Au fond, l'identification avec ces personnages-là, elle est immédiate. Et c'est assez osé, vous avez effectivement raison de le dire, que de montrer de tels personnages, parce que on peut dire que voilà, ce qu'ils font, nous pouvons le faire aussi, effectivement.
Voire nous souhaiterions.
Peut-être.
Dans toutes ces tensions, une question me vient, avaient-ils, ces peintres, le sentiment, la conscience d'être dans une forme de subversion ou pas ? Était-ce naturel ? C'est un simple retour de refoulé ? C'est un désir de s'emparer de nouveaux thèmes picturaux ou une volonté subversive fut-elle simplement libératoire ?
Écoutez, l'interprétation existe en histoire de l'art, donc on peut effectivement se poser ces questions-là. Y répondre est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut disposer d'éléments. Alors, je vous le disais tout à l'heure, de ce point de vue-là, on a assez peu d'anecdotes, de faits précis qui nous permettent de savoir si effectivement il y avait une intention de ce type chez Watteau ou pas. Ce qui apparaît probablement, c'est que l'idée de la transgression est peut-être une idée qui appartient plus à notre univers contemporain. Au fond, on le voit bien, l'histoire, c'est un, comme on dit, et pardon de répéter une expression courante, un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que il n'y a pas tout d'un coup une transformation violente, une radicale qui s'effectue. Il faut que le mouvement se fasse progressif. Après, il peut s'accélérer.
Il s'est accéléré,
dans un premier temps, les choses commencent très doucement. Alors, est-ce que à ce stade, Watteau est transgressif? J'avoue que je ne saurais pas vous répondre.
Votre prudence vous honore. D'autant qu'effectivement, on voit que d'un point de vue pictural, ils s'inscrivent, effectivement, comme vous le disiez, dans une tradition. Il n'y a pas de volonté de transgression, de rupture, ils s'inscrivent dans une tradition. Toutefois, ce qui est intéressant avec les fêtes galantes, c'est que elles deviennent un genre pictural et que Watteau fait école, justement.
Oui.
Comment ces suiveurs, entre guillemets, s'inscrivent-ils dans ces traditions? Quelle inflexion donnent-ils?
Alors, je crois que là, vous avez raison de souligner ce fait. Et je pense que c'est là l'un des points importants et l'un des points novateurs de l'exposition. Parce que je vous rappelle qu'il y a de cela quelques années, Patrick Ramade, alors qu'il était conservateur du musée de Valenciennes, avait traité une exposition sous le titre de Watteau et la fête galante. Donc, cette idée-là, vous voyez, est une idée qui appartient de longue date à la thématique qui tourne autour de l'œuvre de Watteau. Mais ce qui est neuf dans l'approche que Christophe Voeckter a voulu faire, Christophe Voeckter est directeur de la Wallace Collection de Londres, qui est l'une des plus grandes collections de Watteau existant au monde. Et par ailleurs, Christophe Voeckter est un des spécialistes qui maintenant suit le sillon tracé par Pierre Rosenberg et qui reprend le flambeau et essaye d'approfondir le sujet. Ce qu'il nous a proposé dans l'exposition du musée Jacques Marandré, c'est de voir comment, disons, l'intuition qui a été celle de Watteau au début du XVIIIe siècle, va être reprise par des suiveurs et qu'elle va se poursuivre pendant une grande partie du XVIIIe siècle. Autrement dit, la fête Watteau ne s'arrête pas à la mort de la fête galante, pardon, ne s'arrête pas à la mort de Watteau, mais elle va continuer largement au-delà. Alors, comment expliquer la chose? D'abord, le succès du thème qui rencontre chez des amateurs, chez des collectionneurs, indubitablement un grand succès. Et alors, les choses, on le sait pour le coup, parce que Jean de Julienne, Croza, Mariette, qui sont les grands collectionneurs de l'époque, l'ont dit pour le coup. On demande à Watteau, et puis après à ses suiveurs, de répéter ces belles inventions. Donc, il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, mais je voudrais bien avoir une fête galante ». Et alors, quand Watteau n'est pas disponible, eh bien, on va s'adresser à la deuxième génération. Et alors, là, on rencontre deux peintres qui sont assez proches de Watteau. Il y a Jean-Baptiste Pater, et puis il y a Nicolas Lancret. Les deux sont, si vous voulez, dans la proximité, dans le style. Ils sont très proches d'un point de vue stylistique de Watteau, mais... Et alors, c'est là où l'exposition aussi nous apporte des éléments nouveaux. Ils vont s'appuyer beaucoup plus que Watteau lui-même sur la réalité. Je vous disais tout à l'heure, c'est une question qui a souvent été posée, est-ce qu'on peut reconnaître dans les tableaux de Watteau un personnage historiquement reconnu? La réponse est non. Tandis que chez Lancret et Pater, vous avez de plus en plus souvent des éléments de pris dans la réalité qui vont apparaître. Alors, l'exemple le plus clair, ce sont ces deux tableaux que nous avons, de Lancret en l'occurrence, et qui nous montrent des fêtes galantes avec une danseuse. Et en particulier... une danseuse qui est la Camargo. Alors, ça mérite d'être développé. Qui est la Camargo? C'est une jeune femme de très belle, très habile dans son métier. Et elle a franchi, elle aussi, un pas très important dans la libération de son art, puisque jusqu'alors, sur scène, seuls étaient autorisés des hommes pour danser, notamment des ballets. Si bien que vous aviez des hommes qui tenaient des rôles masculins comme féminins. Et au début du XVIIIe siècle, vous avez ce pas qui est franchi. Pourquoi ? Parce que la Camargo est si extraordinaire lorsqu'elle danse que on ne peut pas s'empêcher de dire qu'elle est parfaitement à sa place. Et donc, on ne va pas l'empêcher d'exercer son art. C'est vrai à Paris, où elle est reconnue comme telle, et puis elle va faire le tour de toutes les capitales occidentales. Et à chaque fois, elle est reconnue. Alors, c'est quand même très étonnant de voir Lancret qui traite une fête galante, c'est-à-dire que nous avons une campagne avec des bosquets, des arbres, nous avons des jeunes gens, des jeunes femmes qui se regardent, qui échangent des propos qu'on imagine galants, oui. Et puis tout d'un coup, sur le devant, nous avons un couple, un homme et une femme, et on fait tout ce qu'il faut, en tout cas Lancret fait ce qu'il faut pour que la femme soit placée au premier plan, elle amorce un pas de danse très élégante et son visage, pour les gens de l'époque naturellement, est parfaitement identifiable, c'est la Camargo. Donc là, le réel est totalement présent. Il y a une autre façon d'intégrer le réel dans ces scènes de fête galante, c'est ce que fait en particulier Jean-Baptiste Pater, qui imagine à nouveau des fêtes galantes, dans réunions, dans une campagne imaginaire de jeunes gens et de jeunes filles. Et puis, vous avez une rive et vous avez une fontaine. Et voilà que nous découvrons ces jeunes femmes qui se déshabillent pour se baigner. Alors, elles sont plus nues qu'on ne pourrait le souhaiter. Et évidemment, on a là clairement une scène érotique. Donc, Pater ne nous laisse rien ignorer des charmes féminins. Il le fait volontairement. Il n'y a pas d'allusion. Il y a clairement une description de cette beauté et de cette sensualité. Donc, là encore, on le voit très bien, le passage de cet imaginaire au réel, il est, à ce moment-là, dans un sens assez surprenant, puisqu'on voit on voit le peintre passer plutôt de l'évocation poétique à la réalité, alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse qui se fait. Donc ça, c'est la première étape de la suite de Watteau qui va poursuivre la thématique de la galanterie, mais avec des apports qui sont nouveaux. C'est aussi très intéressant de voir que le thème est suffisamment riche pour qu'il puisse se développer avec des innovations que Watteau, à l'origine, n'avait pas imaginées.
Oui, il est décliné de multiples façons. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de retour aux sources, puisque au fur et à mesure que l'on se dénude, on se rapproche finalement de la pastorale originelle?
On se rapproche de la pastorale, c'est vrai. Et c'est possible parce que, de plus en plus, la société l'accepte. Il y a aussi ce cheminement parallèle qui se fait. Imaginez un tel tableau au temps de l'Inquisition, évidemment, on arrête tout de suite les choses. Bon, là, au contraire, voilà, au contraire, on a une société qui tolère cette thématique.
Oui, voire qui demande.
Qui la demande certainement aussi.
Parce qu'on a l'impression qu'il faut aussi en donner à chaque fois un petit peu plus, non ?
Oui, c'est vrai, encore que, quelquefois, les orientations sont assez ouvertes. L'érotisme est très présent chez Pater comme chez Lancret, d'ailleurs. Mais ensuite, on voit les choses évoluer différemment. Chez Boucher, qui est le successeur de la deuxième génération, les choses se font différemment. Alors, je peux peut-être évoquer ici le lien, tout d'abord, et puis après, j'évoquerai les différences. Ce qui fait partie, du lien direct entre Boucher et Watteau, c'est un personnage que j'ai déjà évoqué, qui est Jean de Julienne. Jean de Julienne, c'est un riche Parisien qui a pris sous sa protection Watteau. Et il va lui acheter beaucoup de tableaux, il va collectionner ses dessins, ce qui est très intéressant parce que le goût de la collection de dessins, c'est aussi quelque chose de neuf qui apparaît à cette époque. Et alors, à la mort de Watteau, Jean de Julienne va prendre une décision inouïe. Il va dire « Bon, mais je finance la publication du catalogue raisonné de l'œuvre de Watteau ». Alors, vous comprenez, si je vous dis ça, je trouve ça scandaleux. Parce que normalement, c'est un historien de l'art qui publie un catalogue raisonné. Et là, on a un simple amateur qui se permet de marcher sur les plates-bandes des historiens de l'art. Alors évidemment, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que là encore, si vous voulez, c'est une réaction très étonnante. Voilà quelqu'un qui dit « on ne doit rien perdre du brio et de l'invention de Watteau ». Alors que fait-il ? Eh bien, il demande à un groupe de jeunes artistes de graver toutes les œuvres que Watteau a traitées, que ce soit en peinture ou en dessin. On fera donc un album de gravures et là-dedans, vous trouverez toutes les inventions de Watteau. Et donc, vous avez, dans ce petit groupe d'artistes, vous avez un certain François Boucher au début de sa carrière. Et François Boucher, que fait-il ? On a fait le compte, près d'une centaine de gravures d'après Watteau. Donc, vous comprenez bien que après cela,
totalement imprégné par l'œuvre.
Complètement. Hein, il a tout vu, il a tout saisi. Il a, bon. Alors, la fête galante, bon, il connaît. Ce qui est amusant, c'est que Boucher, progressivement, va devenir l'artiste le plus important de l'école française de peinture au milieu du XVIIIe siècle. Il va même prendre la suite de Lebrun comme premier peintre du roi. Pas la suite directe, naturellement, mais il occupera la même place que Charles Lebrun sous le règne de Louis XIV. Et si je l'évoque, c'est tout simplement parce que on lui passera les mêmes commandes. Pour les résidences royales, il faut traiter des scènes mythologiques, les amours des dieux, c'est-à-dire les amours du roi. Et puis, on lui demande aussi de traiter ces mêmes thèmes, non pas sur le mur, mais par l'intermédiaire de la tapisserie. Donc, il réalise les cartons qui sont ensuite envoyés soit au Gobelin, soit à Beauvais, dans les deux grandes manufactures royales. Et là, c'est lui qui, à nouveau, c'est d'après ses œuvres qu'on réalise ces tapisseries, qui elles-mêmes sont diffusées. Et c'est encore et toujours lui qui fera des décors provisoires. Voilà, c'est le peintre le plus occupé du milieu du XVIIIe siècle. Et surtout, dans les histoires qu'il traite, on a à ce moment-là affaire à une peinture d'histoire. Hein, donc on est là encore dans la tradition telle que je l'ai évoquée pour le XVIIe siècle.
Mais on est encore à Versailles.
On est encore à Versailles. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que Boucher va imaginer une thématique où il présente des pastorales. Alors, il y a de sa part, une certaine ironie, parce que quand vous voyez ces bergers et ces bergères représentés sur les tableaux que François Boucher réalise, vous vous interrogez en vous disant est-ce que franchement, dans la France du XVIIIe siècle, les bergers et les bergères étaient habillés de cette façon-là, c'est-à-dire avec des habits de cour ? Est-ce qu'ils tenaient à la main le ruban qui tenait un petit loulou de Poméranie ? Est-ce qu'ils avaient autour d'eux en permanence ces architectures à l'antique non, évidemment.
Donc, on n'est pas dans le réalisme social, c'est certain.
C'est pure fantaisie. Hein, c'est pure fantaisie. Mais ça permet à Boucher de revenir sur le thème ou dans lequel, sur ces histoires dans lesquelles jeunes gens et jeunes femmes se rencontrent et pas simplement pour parler philosophie.
Toutefois, puisque vous évoquez c'est tard de la conversation, au détour du catalogue, j'ai découvert que la place de la conversation, au-delà même du badinage, avait une place centrale et peut-être même une vertu sociale à cette époque, et qu'il s'agissait, par la conversation et la galanterie, d'un modèle de civilisation destiné à surmonter les tensions, les divisions, la fronde et l'agitation qui avait pu être celle de règne pas si linéaire que cela.
Quand on évoque le Paris du XVIIIe siècle, évidemment, on évoque les salons. ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces lieux de réunion où on venait inviter et où on découvrait, il fallait évidemment que parmi l'assistance, il y ait l'écrivain à la mode du moment, qui est le diplomate qui venait de briller dans la négociation d'un traité, etc., etc., et des peintres et des graveurs. Bon. Et tout ce beau monde n'avait qu'une ambition et un objectif, c'est briller. Et là, évidemment, on ne peut penser qu'à Voltaire. Hein. Voltaire dans un salon, mais c'est la quintessence de l'esprit français. Après, je dirais, il n'y a plus de... On ne peut pas aller plus loin que cela. Donc, si vous voulez, c'est ce monde-là, avec ses enjeux qui est en cause, en quelque sorte, et c'est dans ce monde-là, effectivement, que cette évocation, elle peut avoir le plus de chances d'être portée au niveau le plus élevé.
En évoquant Voltaire, vous me disiez lors de la préparation de cette émission, ça mérite probablement d'être développé, que alors que habituellement dans les siècles précédents, la peinture s'inspirait de la littérature, des lettres, au XVIIIe, c'est plutôt la peinture qui est en poste avancé et
oui,
dans la position
vrai.
Des précurseurs.
C'est vrai, on évoque toujours le marivaudage, donc Marivaux, et puis ensuite Beaumarchais. Mais si vous regardez les dates, on est quand même assez tard dans le siècle. Donc en réalité, et pour revenir au point de départ avec Watteau, on est confronté à un vrai créateur qui ne va pas, s'appuyer sur une base théorique ou une base intellectuelle ou des équivalents pour imaginer le monde qu'il représente dans ses tableaux. C'est en ce sens, en effet, qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a un moment où la peinture est à l'avant-garde de l'expression intellectuelle. Et puis, après, on va trouver l'équivalent dans les autres formes artistiques. Mais ce moment-là, il existe. Et il faut, vous avez raison, il faut le souligner, parce que c'est assez étonnant.
L'exposition, il nous reste peu de temps là. Faire une forme d'accélération. L'exposition se nomme de Watteau à Fragonard. Fragonard,
oui.
C'est le...
C'est la dernière oui. étape. C'est la dernière étape, tout simplement. Alors, Fragonard, en un mot, là encore, le lien entre Boucher, que l'on vient de suivre, et Fragonard, c'est tout simplement l'atelier. Fragonard a travaillé dans l'atelier de Boucher au début de sa carrière. Donc, lui aussi, il a pu s'imprégner de ce monde de la galanterie. Et puis ensuite, il a développé sa création. Alors lui, on l'a souvent dit, en ne laissant rien ignorer de l'érotisme, mais en même temps avec une forme de sublimation qui trouve sa meilleure expression, je crois bien, dans l'Escarpolette. Tableau insigne qui est aujourd'hui à la Wallace Collection, et c'est quand même très 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 extraordinaire. Il faut que je rappelle l'anecdote, puisque un galant qui voulait faire honneur à sa maîtresse demande à un artiste de peindre un tableau où on la verrait sur une escarpolette. Alors l'escarpolette, c'est une balançoire, et bien entendu la position du monsieur, c'est en dessous de la balançoire, c'est-à-dire qu'il voit très clairement, on a une légende parce que le tableau était gravé, il voit les jambes de la dame, et ça suffit pour imaginer le reste. Et il demande ça à un peintre qui accepte dans un premier temps, puis se retire en disant « Non, c'est trop posé. Je ne peux pas y arriver. » Mais il a la lâcheté de dire « Mais j'en connais un qui acceptera, c'est Fragonard. » Pourquoi ? Parce que Fragonard, il a besoin de commandes, justement. Il a besoin de commandes pour vivre. Et donc Fragonard le fait. Et là, il réalise ce chef-d'œuvre de la peinture universelle. Hein, j'ose le dire, c'est un tableau incroyable. Comment m'exprimer autrement que de vous dire que la balançoire, elle a un mouvement de va-et-vient. Donc, c'est un mouvement parfaitement explicite. Et que pour aller encore plus loin dans l'allusion, la jeune femme, elle... elle a une pantoufle et que le mouvement fait valser la pantoufle et que tout d'un coup on la voit apparaître dans le ciel traversée par un rayon de lumière. S'il n'y avait pas le rayon de soleil, on ne devinerait pas que la pantoufle a quitté le pied de la jeune femme et qu'elle se balade dans l'air. Et là encore, des critiques très averties. Hein, je m'appuie sur des gens savants, sinon je n'oserais pas vous. Je n'oserais pas vous dire de telles horreurs. Explique qu'on a là une image très claire du désir qui arrive à son paroxysme.
Je reste quoi?
Voilà, mais si vous voulez, ce qui est alors, on peut être d'accord ou pas avec cette interprétation, peu importe au final. Ce qui est magnifique, c'est que Fragonard ait trouvé là encore, si vous voulez, ce qui est passionnant, c'est de trouver le moyen d'exprimer quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire d'habitude. Hein. Et il a trouvé un moyen magnifique, qui est un moyen pictural. Hein. Donc, pour ça, on peut le remercier. C'est vraiment un très grand créateur.
Finalement, la censure est parfois le moteur des innovations et de la subtilité.
Certainement. Il faut toujours un petit peu de contraintes pour pousser les créateurs à aller de l'avant.
Et pour pousser nos auditeurs à se rendre à cette magnifique exposition, faut-il pas dire aussi tout simplement qu'en regardant ces tableaux, ils sont tout simplement charmants aussi. Au-delà de tous les aspects cérébraux, historiques que nous avons évoqués, on ne peut être que saisi par le charme de toutes ces compositions. Alors, on a évoqué des choses un petit peu lourdes. Est-ce que c'est subversif ou pas? C'est de ma faute. Hein, je vous emmenais sur ces terrains-là. En quoi est-ce que c'est un reflet de l'époque, des tensions de la société? Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est peut-être aussi quelque chose de plus simple, de plus apaisé, de joli comme l'amour, peut-être, tout simplement.
Oui, c'est vrai, quand on se laisse simplement, bercer par le regard qu'on peut porter sur cette peinture, il y a une impression qui domine, c'est qu'après tout, en partant de Watteau, on a encore une peinture qui est un petit peu, sombre. Et plus on avance avec Boucher et en terminant avec Fragonard, plus on se rapproche de la lumière. Hein, c'est un parcours lumineux. Et c'est un parcours qui nous amène, on pourrait presque dire, là encore, pour reprendre une expression chère à Watteau, il nous amène dans l'île de Cythère. Hein. Donc, ça n'est qu'une perspective, on ne peut plus agréable.
Oui, vu de notre société d'aujourd'hui et ses immenses lourdeurs, effectivement, siècle des Lumières apparaît comme une île grecque.
Complètement, avec une subtilité, une élégance qui ne sont pas toujours celles qu'on rencontre au quotidien.
Merci beaucoup, Nicolas Saint-Fargarneau. Je conclue donc en incitant à nouveau nos auditeurs à se rendre dans cette magnifique exposition pour admirer ses œuvres. C'est donc au musée Jacquemart André et c'est jusqu'au 21 juillet. Merci beaucoup. Thank you.